Nous reprenons cet après-midi notre étude de la première épître de Jean, qui, je vous le rappelle, est adressée à des chrétiens qui vivaient probablement en Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Ces chrétiens qui, sans doute, vivaient dans les années 80-90 après Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean écrit cette lettre dans un but pastoral, pour rassurer ces chrétiens troublés par un nouvel enseignement que certains leur apporte. Jean veut rassurer ses chrétiens en leur démontrant qu'ils sont du bon côté, du côté de Dieu. Et les commentateurs s'accordent pour identifier dans cette épître trois oppositions, trois dualités récurrentes qui reviennent plusieurs fois dans cette épître. Trois dualités qui sont comme trois tests pour reconnaître la foi authentique. Et je vous propose, à travers le tableau que j'ai préparé, de simplement voir ces trois dualités, ces trois oppositions qui nous permettent de reconnaître où se situe la foi authentique. Alors, les trois thèmes sont les suivants: obéissance et péché, amour et haine, vérité et erreur. Ce sont trois tests pour identifier où se situe la foi authentique. Et bien sûr, la foi authentique en Jésus-Christ se situe du côté de l'obéissance, du côté de l'amour et du côté de la vérité. Et vous voyez dans ce tableau que j'ai mis les numéros de chapitres et de versets pour vous indiquer que c'est comme un cycle, que ces trois thèmes reviennent plusieurs fois, notamment ici, nous sommes au cycle numéro 2 et nous allons étudier le chapitre 4. Et vous voyez, c'est... Nous nous situons dans le thème de la vérité et de l'erreur qui a déjà été traité au chapitre 2. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la structure de la lettre que certains ont pu faire ressortir. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais on retrouve voilà, cette récurrence des thèmes qui montre toute l'importance de ces thèmes pour l'apôtre Jean et des thèmes qu'il utilise comme argument pour rassurer les chrétiens. Voilà, ça c'était l'introduction pour pouvoir aussi nous remettre dans le bain. Je vais à présent lire le texte, la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les chrétiens de l'époque de Jean étaient vraiment confrontés à une situation compliquée. D'un côté, ils avaient accueilli avec foi le message des apôtres de Jésus-Christ, l'Évangile. Et de l'autre, des personnes qui ont quitté l'Église commençaient à enseigner avec conviction tout autre chose. Ces enseignants, qui se disaient chrétiens aussi, séparaient le Jésus humain et le Christ divin. Et juste une parenthèse, aujourd'hui nous retrouvons aussi cette conception de Jésus séparé de Christ. Nous retrouvons cette conception notamment dans le mouvement New Age, dans le Nouvel Âge. Aujourd'hui encore, des gens croient en cela. Je reviens à l'époque, je ferme la parenthèse et je reviens à l'époque de Jean. Ces enseignants séparaient Jésus et Christ. Jésus serait pour eux un homme qui aurait reçu Christ lors de son baptême, d'où sa capacité à faire des miracles. Et au moment de la croix, Le Christ s'est retiré et seul Jésus, en tant qu'homme, est mort. Ce n'est clairement pas le message des apôtres. Ce n'est clairement pas ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Et c'est dans ce contexte particulier que l'apôtre Jean met en garde les chrétiens d'Asie mineure. Il leur dit de faire attention, de mettre les esprits à l'épreuve. Et j'expliquerai le sens de cette expression tout à l'heure. Aujourd'hui, les choses ont-elles changé? Absolument pas. Des personnes qui se disent chrétiennes continuent de donner des enseignements qui s'écartent de la vérité biblique. Aujourd'hui, avec Internet, il est facile pour ces faux prophètes d'avoir une large audience et ils sont effectivement écoutés. Avec la publication massive, leurs livres sont vendus par millions. Le texte de cet après-midi nous donne un sérieux avertissement qui est toujours d'actualité. Et le message central est le suivant. Dieu nous demande de faire preuve de discernement afin de reconnaître la vérité qui vient de lui. Dieu nous demande de faire preuve de discernement afin de reconnaître la vérité qui vient de lui. Et dans un souci pastoral, Jean explique à ses destinataires la démarche que je vous propose de suivre en trois temps. D'abord, une nécessité, verset 1, un test que Jean nous propose, versets 2 et 3, et puis une certitude, versets 4 à 6. Une nécessité, un test, une certitude. D'abord, une nécessité, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est dans le commentaire de John Stott que je retrouve cette idée de nécessité. Quelle nécessité ? Qu'est-ce qui est nécessaire de faire quand quelqu'un prétend nous parler de la part de Dieu ? Nous avons ici deux verbes à l'impératif. Ne vous fiez pas et mettez à l'épreuve. Ne vous fiez pas à tous les enseignements que vous entendez. Ne faites pas confiance à toute personne qui vient à vous en disant être inspirée de Dieu. Au contraire, exercez un esprit critique. Mettez les esprits à l'épreuve. Alors, nous pouvons être étonnés par ce pluriel, les esprits. Certains comprennent qu'il s'agit de discerner quel est l'esprit qui inspire la personne qui parle. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Ou bien est-ce un esprit mauvais ? Et puis d'autres comprennent que le mot « esprit » désigne les personnes elles-mêmes. Et il s'agit alors de mettre à l'épreuve ce que ces personnes-là enseignent, ce qu'elles disent, pour vérifier, pour déterminer si elles sont ou non chrétiennes, si elles sont de Dieu, pour reprendre l'expression de Jean. Mettre à l'épreuve, c'est-à-dire examiner. Vérifier par des tests si c'est Dieu qui est à l'origine d'un tel enseignement. Et avant de nous pencher sur le test que Jean donne au verset 2 et 3, j'aimerais insister encore sur cet impératif. Mettez les esprits à l'épreuve. C'est le réflexe que les chrétiens doivent avoir lorsqu'ils reçoivent un enseignement, que ce soit par la prédication, que ce soit par l'étude biblique, par la littérature. Il y a beaucoup de livres chrétiens ou dits chrétiens. Ou encore lorsqu'il s'agit des chants de louanges. Parce qu'effectivement, les chants de louanges véhiculent une théologie, un enseignement. Et il est important d'exercer notre discernement aussi par rapport aux chants de louanges. Alors, pourquoi ce discernement est-il si important ? J'évoquerai avec vous deux raisons. La première, c'est important parce que nous retrouvons cette idée dans le reste de la Bible. Et je donnerai trois exemples. Et puis la deuxième raison, c'est que ce discernement est important à cause de la présence même des faux prophètes dans le monde. Alors, je vais m'attarder sur la première raison d'abord. Regardons ensemble trois textes parmi tant d'autres dans la Bible qui nous encouragent à être vigilants. Et si vous avez une Bible sous la main, c'est l'occasion d'examiner ce que je suis en train de vous dire. D'abord, dans l'Ancien Testament, si nous prenons le texte de Deutéronome, chapitre 18, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, en tant que peuple de Dieu, était déjà appelé à mettre à l'épreuve la parole d'un faux prophète. Et donc, je vous lis ce texte dans Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que le prophète n'aura pas lieu, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Si le prophète dit quelque chose et que la chose n'arrive pas, eh bien, il est certain que ce n'est pas le Seigneur qui l'a annoncé. Dans le Nouveau Testament, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, donc l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens utilise exactement le même verbe que Jean en grec. Jean dit « mettez à l'épreuve » et puis Paul lui dit, enfin en tout cas on le traduit par « examiner ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset, à partir du verset 19. « N'éteignez pas l'esprit ». Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Ici, dans le contexte, il n'est pas question des faux prophètes, mais de ce qui est dit au sein de la communauté chrétienne, de ce qui est dit dans l'Église, lors d'un culte par exemple. Paul en appelle à un discernement collectif. Examinons en Église tout ce qui est dit. Et retenons ce qui est bon. Voilà ce que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 21. Et puis un dernier passage qui me paraît aussi aller dans ce sens-là. Nous lisons dans Actes 17, le livre des Actes au chapitre 17. Je vous présente rapidement la situation qui précède. Dans la ville de Thessalonique, la situation est tendue. Paul, accompagné de son compagnon de route, Silas, ont dû partir et ils se rendent dans une ville qui s'appelle Bérée. Et nous lisons donc dans Acte 17, à partir du verset 10, « Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et qu'est-ce qu'ils firent? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs qui ont accueilli favorablement le message de Paul et de Silas vérifiaient ce nouvel enseignement en consultant les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour leur époque. Alors que Paul et Silas parlaient de Jésus comme étant le Messie annoncé par l'Ancien Testament, eh bien ces Juifs scrupuleux vérifiaient dans les Écritures que tout cela était bien exact. Tous ces textes, avec celui d'aujourd'hui, nous questionnent sur notre pratique. Avons-nous ce réflexe d'examiner toute chose à la lumière de la parole de Dieu? De vérifier que le prédicateur enseigne bien selon ce qui est vraiment écrit dans la Bible? Mes amis, ayons au moins une Bible sous la main lorsque nous entendons quelqu'un prêcher ou lorsque nous lisons un livre dit chrétien. Et c'est aussi un bon rappel pour moi de pouvoir y penser, de me dire que face à quelqu'un qui nous enseigne, ayons le réflexe d'avoir ce qui fait autorité pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ne restons pas passifs. Ne soyons pas naïfs en croyant que tout ce qu'un homme ou une femme peut nous dire de la part de Dieu est juste. D'ailleurs, pour reprendre une formule qu'emploie John Stott dans son commentaire, il dit la chose suivante, et ça résume un peu cette idée. La foi véritable vérifie son objet avant de lui accorder sa confiance. La foi véritable vérifie son objet avant de lui accorder sa confiance. Exercer notre discernement n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est un devoir chrétien si nous voulons garder intacte la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, j'en viens à la deuxième raison pourquoi c'est important. Exercer notre discernement est important et nécessaire à cause de la présence des faux prophètes. Et c'est ce que nous lisons dans notre texte. Regardez encore le verset 1. Mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Pour être plus précis, le terme grec qui désigne ces gens est pseudo-prophétaï, c'est-à-dire des pseudo-prophètes, parce qu'ils ne parlent pas véritablement de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés pour enseigner son peuple. Dans le contexte de l'époque, ces pseudo-prophètes cherchaient à séduire les chrétiens. Et à cause de leur activité, eh bien, les chrétiens devaient être vigilants, rester vigilants et mettre à l'épreuve ce qu'ils entendaient. Et comme nous l'avons vu au début de ce message, c'est aussi une réalité qui est actuelle. Ces pseudo-prophètes exercent toujours leur activité aujourd'hui même. Et j'aimerais simplement, pour reposer ma voix, laisser la parole à Eric qui va vous parler un peu de ces pseudo-prophètes des temps modernes. Eric, la parole est à toi.
Bonjour à tous. À la demande de Pasteur Philippe, j'aimerais faire un petit partage en rapport au message. L'année dernière, j'ai été victime d'une secte religieuse. Cette secte est aujourd'hui connue du public car elle a fait la une des médias concernant le COVID-19 en Corée du Sud récemment. Et cette secte, elle prend l'apparence d'une église chrétienne comme la nôtre et elle commence par vous proposer des études bibliques tout comme les nôtres. Et elle gagne votre confiance et progressivement, elle vous enseigne une logique qu'elle s'installe en vous. Et cette logique, c'est que l'Esprit de Jésus-Christ est revenu et aujourd'hui en un homme en Corée du Sud, qui habite dans le corps d'un homme coréen, en fait. Les victimes... ils sont ainsi amenés à croire en cet homme pour être sauvés en lui seul et que seul lui peut interpréter la parole de Dieu, en particulier le livre de l'Apocalypse. Et cela peut paraître ridicule, mais je vous assure que leur méthode est bien plus subtile que ça. En effet, par des enseignements mélangeant le vrai et le faux, cette secte est parvenue à recruter des milliers d'adeptes et la plupart des chrétiens. Frères et sœurs de l'Église, par mon expérience, j'ai compris que des faux docteurs existent et sont très actifs aujourd'hui dans le monde. Et ils ne sont pas toujours évidents à repérer non plus. Nous sous-estimons pas l'influence du malin, car lui aussi connaît la parole. Et aussi bien que nous, et si ce n'est pas encore mieux que nous, la parole de Dieu qui nous unit en fait. Le malin, il cherche à nous tromper et il y arrivera en nous persuadant de ses mensonges. Cependant, je vous encourage à garder la foi en celui qui est en nous et qui est plus grand que le monde. Continuons ensemble à approfondir notre foi dans sa parole pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Que le Seigneur nous garde en lui seul Et je serai disponible après le cours, pendant le groupe de partage, si vous souhaitez en savoir plus sur mon témoignage. Merci.
Merci Eric pour ton témoignage et voilà une situation réelle que tu nous partages et qui nous donne d'autant plus raison d'être vigilant. Mettre les esprits à l'épreuve est un impératif chrétien. Et il arrive que nous tombions dans l'erreur une première fois. Eric l'a témoigné, mais si moi je parle de ma propre expérience, il m'est arrivé il y a une dizaine d'années d'entendre un enseignement qui paraissait nouveau et de trouver cela génial. Parce que lorsque c'est nouveau, c'est plus attirant. Ça change de ce qu'on entend d'habitude. Et à l'époque, je manquais de discernement et je n'avais pas le réflexe d'examiner ce que j'entendais. Or, cet enseignement n'était tout simplement pas juste théologiquement. Et ça, je l'ai compris et appris plus tard. C'était une doctrine erronée. Et vous savez, et je pense que Eric a fait la même expérience, c'est douloureux de s'en rendre compte. On s'est fait avoir, qu'on a cru en quelque chose, et puis finalement c'était faux. C'est pourquoi j'ai à cœur, d'autant plus, d'insister un peu plus sur cet impératif. Mettez les enseignants à l'épreuve. Tournons-nous à présent vers le test que Jean propose. Un test, versets 2 et 3. À l'heure actuelle, nous parlons beaucoup de tests en rapport avec la pandémie. Et ce test est important pour savoir si une personne est malade ou non. De la même manière, nous devons tester les enseignements pour savoir si la personne qui enseigne est animée ou non par l'Esprit de Dieu. Faisons le test. Je relis avec vous les versets 2 et 3. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Pour l'époque de Jean, le test est clair et simple. Est-ce que la personne qui enseigne parle de Jésus comme le Messie venu en homme? À l'époque, c'était un test imparable parce que c'était précisément à propos de l'identité de Jésus qu'il existait des divergences. Pour les pseudo-prophètes, le Christ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne s'est pas incarné en tant que tel. Il n'est pas devenu un homme, il est juste entré dans un homme comme un esprit. Et nous voyons au verset 3 qu'un tel enseignement ne peut pas venir de Dieu. Jean avait déjà parlé de l'Antichrist au chapitre 2, et l'esprit de l'Antichrist représente la pensée qui anime les faux prophètes ou les faux docteurs. C'est ce qui se retrouve dans tous les enseignements qui déforment la vérité à propos de Jésus-Christ. Par contre, les messages qui nous viennent de l'Esprit de Dieu sont toujours conformes à ce que nous trouvons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Pour la simple raison que c'est l'Esprit lui-même qui a inspiré les auteurs de la Bible. Et celui qui reconnaît Jésus comme le Messie venu en homme, en chair et en os, enseigne ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, enseigne ce que les apôtres ont eux-mêmes enseigné. Et c'est important qu'il n'y ait pas de compromis sur l'identité de Jésus. Pour le dire encore autrement, Jésus, Dieu de toute éternité, qui était là avant la création du monde, est venu dans ce monde en tant qu'homme à un moment donné de notre histoire humaine. Nous avons besoin de toutes ces informations pour réellement décrire ce qu'on appelle l'incarnation. Et d'ailleurs, Philippiens chapitre 2, lui qui était de condition divine s'est fait homme. C'est le message que les apôtres nous ont unanimement transmis au sujet de Jésus. Et quelles sont les conséquences si nous nions cette vérité de l'incarnation, comme le faisaient les pseudo-prophètes? Si Jésus n'est pas Dieu devenu homme, alors cela signifie que c'est un simple homme comme vous et moi qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Ce serait une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour notre salut. Parce que ça voudrait dire que cet homme n'a pas pu mourir pour nous tous, qu'il n'a pas pu payer pour nos péchés. En réalité, un simple homme innocent, même s'il est parfait, un simple homme innocent ne peut payer que pour une seule personne coupable. Mais si cet homme est aussi le Dieu infini, alors effectivement, il peut payer pour l'humanité entière et pour l'humanité coupable. Parce que la valeur de sa vie est infinie. Et nous croyons que, et c'est ce que nous croyons, que Jésus, pleinement homme, est aussi pleinement Dieu. Aujourd'hui encore, ce test à propos de l'identité de Jésus est imparable. Dans mes recherches, j'ai constaté que tous ceux qui étaient reconnus comme des pseudo-prophètes présentaient un Jésus qui était différent de celui du Nouveau Testament. Ou bien, et c'est là où il y a aussi subtilité, ou bien ils ne lui accordent pas la place centrale qu'il a en réalité dans le Nouveau Testament et dans l'ensemble de la Bible. Des sectes comme les Témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu fait homme. D'autres sectes, comme celle qu'a mentionnée Eric, travestissent l'incarnation en prétendant que leur leader actuel est le Christ. Alors faisons le test. Vérifions la place qu'occupe Jésus dans la prédication des enseignants que nous écoutons. Est-ce qu'ils parlent bien du Jésus qui nous est présenté dans le Nouveau Testament? Ou est-ce qu'ils sont en train de parler d'un autre Jésus, un peu édulcoré? Est-ce qu'ils parlent régulièrement de Jésus dans leur message, de sa personne et de son œuvre? Ou bien est-ce que ce sont d'autres thèmes qui occupent plus de place dans la prédication? Par exemple, l'argent, la réussite, le bien-être, ceux qui parlent beaucoup de destinée. S'il arrivait que vous ayez des doutes par rapport à ce que vous avez entendu ou lu, parlez-en dans votre groupe de maison, à l'un des responsables de l'Église ou bien à l'un des pasteurs. Que nous puissions discerner ensemble si oui ou non ce que cette personne a enseigné vient de Dieu. Nous avons vu que le discernement était une nécessité dans un contexte où les faux prophètes sont toujours actifs. Nous venons de voir que le test que Jean donne dans ce passage est toujours efficace. Terminons par la certitude que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais peut-être dire une évidence, mais je vais la dire quand même. Satan n'est jamais l'égal de Dieu. Malgré toute la mauvaise influence des pseudo-prophètes sur le monde, les chrétiens, celles et ceux qui sont de Dieu, ne sont pas dupes. Jean écrit à des chrétiens qui ont su résister à la séduction de ces enseignements bien ficelés, mais totalement erronés. Ces chrétiens n'ont pas quitté l'Église comme l'ont fait les autres. Au contraire, Jean affirme « Vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Vous ne les avez pas suivis, vous n'êtes pas entrés dans leur jeu, vous avez gardé l'enseignement que vous avez reçu au début de votre vie chrétienne. » Et Jean explique l'origine de cette victoire. Les chrétiens sont dans le camp des vainqueurs parce que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Comprenez que l'Esprit de Dieu est plus grand, plus puissant que Satan qui veut conduire ce monde à sa perte. Et ce, malgré les apparences. Alors pourquoi je parle des apparences? Eh bien, regardons la suite, regardons les derniers versets, verset 5. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. à une époque où l'audimat définit la popularité d'une émission télé, à une époque où le nombre de followers ajoute du crédit à une personne, ne nous laissons pas impressionner par les chiffres. Qu'importe ce que les chiffres nous révèlent sur l'impact d'un enseignant, soyons vigilants. Le verset 5 nous montre que ces pseudo-prophètes parlent le langage du monde et c'est pour cela qu'ils sont écoutés. Leurs messages sont très populaires parce qu'ils visent ce qui concerne le bien-être des auditeurs, leur bonheur, leur réussite. Ce qui compte, c'est qu'ils soient bénis par Dieu matériellement. Oui, ça, c'est un message que le monde, plein de convoitises, écoute. Et c'est ce que continuent de prêcher les partisans de la théologie de la prospérité. Mais vous voyez le contraste avec le message des apôtres. Verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est une réalité que nous pouvons constater encore aujourd'hui. Le message de la bonne nouvelle, l'enseignement qui vient de Dieu lui-même est moins populaire dans le monde. Les chrétiens l'écoutent et continueront de l'écouter parce qu'ils reconnaissent que c'est bien Dieu qui parle. Mais celles et ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, celles et ceux qui n'ont pas été transformés, ne trouvent pas d'intérêt à écouter la bonne nouvelle. Et peut-être que c'est ton cas aussi. Pourquoi croire en un sauveur qui divise autant de gens? Personne ne semble d'accord à propos de Jésus. Et c'est vrai, Jésus divise les êtres humains. Et d'après ce texte, nous sommes d'un côté ou de l'autre. Et il est encore possible pour toi de placer ta confiance en ce Dieu qui est venu en chair et en os, Jésus-Christ, pour donner sa vie pour toi, pour que Dieu puisse te pardonner, pour que Dieu puisse t'accorder la vie éternelle. Et si nous appartenons à Dieu, soyons certains que nous aurons aussi la victoire sur ces enseignants de mensonges, parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, comme il est désigné au verset 6. Le diable n'arrivera pas à nous ôter la foi si nous avons déjà placé notre confiance en celui qu'il a vaincu à la croix, Jésus-Christ. Et sa victoire est aussi devenue la nôtre. Parce que nous avons été extirpés du monde des ténèbres pour être définitivement du côté de Dieu, du côté de la vérité. Nous avons été extirpés du monde des ténèbres pour être définitivement du côté de Dieu, du côté de la vérité. Et comme je l'ai dit, il peut arriver que par ignorance ou par manque de discernement, nous tombions dans l'erreur. Mais c'est là notre certitude, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous conduira de nouveau sur le chemin de la vérité biblique. Que ce soit par des frères et sœurs en Christ, que ce soit par des prédications qui enseignent la saine doctrine, ou tout simplement par un retour à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ne luttons pas à armes égales avec les pseudo-prophètes, pour la simple raison que l'Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui inspire ce monde, et éclairé par la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons démasquer tous ces enseignements erronés. Nous pouvons résister à leur séduction. La théologie de la prospérité ne nous aura pas avec ses promesses de bénédiction. Les témoins de Jéhovah, pleins de zèle, ne nous convaincront pas, même avec des versets tirés de leur Bible. Et d'autres sectes ne nous tromperont pas, surtout s'ils commencent à dire des mensonges à propos de Jésus-Christ. L'apôtre Jean a ce souci pastoral de mettre en garde les chrétiens contre les pseudo-prophètes. Et moi-même, j'ai ce souci pastoral de vous mettre en garde contre les pseudo-prophètes de notre temps, parce qu'ils sont actifs. Ils sont nombreux, parfois déguisés en chrétiens, et ils sont clairement inspirés par un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Et le texte d'aujourd'hui nous fait prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'Église, pas juste individuellement en tant que chrétien, mais en tant qu'Église. Dieu nous demande d'exercer un discernement collectif afin de reconnaître la vérité qui vient de lui. Et je récapitule simplement les trois temps que nous avons vus ensemble. Considérons le discernement comme une nécessité pour ne pas nous laisser tromper, pour reconnaître ce qui vient vraiment de Dieu. Deuxièmement, faisons le test pour vérifier comment un enseignant nous parle de Jésus. Est-ce qu'il en parle conformément à ce que nous révèle l'Écriture ? Et puis troisièmement, ayons la certitude que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la victoire sur ces enseignants de mensonges, parce que Christ lui-même a déjà vaincu le diable. Jusqu'au retour de Christ, nous aurons encore de faux docteurs qui enseignent dans le monde. Mais ma prière est qu'aucun d'entre nous ne se laisse entraîner par des discours erronés et des raisonnements bien ficelés. Qu'aucun d'entre nous ne se fasse avoir par une secte ou quitte l'Église pour le motif qu'il a trouvé un nouvel enseignement. C'est ma prière pour vous, pour moi. Mettons les esprits à l'épreuve, d'autant plus dans cette période de confinement où nous avons peut-être du temps pour écouter des enseignements, des prédications. Restons attachés à la parole de Dieu, vérifions ce qui nous est dit. Et surtout, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour nous garder dans la vérité. Amen. Je vous invite simplement à prendre un temps pour réfléchir à tout ce que vous avez entendu et je prierai. Notre Père, nous voulons te remercier pour la parole que tu as inspirée. Merci parce que nous sommes convaincus que cette parole est la vérité, parce que c'est toi-même qui le dit, qui l'affirme. Et tu connais, Seigneur, les expériences des uns et des autres, et peut-être que pendant que ta parole était enseignée, eh bien, certains ont pensé à des expériences personnelles. Je te prie, Seigneur, que nous puissions garder cette conviction, cette certitude qu'effectivement tu nous garderas. Que ton esprit nous conduira continuellement dans la vérité. Et même si il nous arrive malheureusement de nous laisser tromper par l'ennemi, nous continuons à avoir cette conviction que eh bien, tu sauras nous rattraper, comme tu l'as fait pour Eric, comme tu l'as fait pour moi. Tu sauras nous ramener sur le bon chemin. Et ça, c'est une certitude. Merci Seigneur parce que nous savons que ta parole est fiable et aide-nous à effectivement avoir ce réflexe, à voir comme une nécessité de toujours examiner tout ce que nous entendons, tout ce que des personnes qui se disent chrétiennes peuvent nous dire. Oui Seigneur, que avant toute chose nous restions attachés à la vérité qui est dans ta parole, que nous ne puissions pas être attirés par ce qui nous semble nouveau et qui est totalement en dehors de ce que tu veux nous enseigner. Et ce qui est sûr, Seigneur, c'est que nous voulons nous attacher à un enseignement qui mette au centre Jésus-Christ et qui l'élève comme tu le fais dans ta parole. Vraiment, Seigneur, c'est lui que nous voulons regarder, c'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous reconnaissons comme Seigneur et Sauveur parce qu'il a effectivement tout accompli à la croix. Et qu'il est ressuscité, et qu'à présent, nous pouvons être en communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus, celui que tu as élevé à la plus haute place, que nous prions. Amen.